Alors bonsoir à tous et bienvenue au 53e... 54e apéro brique de la brique. Nous remercions tout d'abord le Alto Poste de nous accueillir si chaleureusement et avec beaucoup de bière, on l'espère, l'équipe du journal La Brique.
Merci le Alto Poste.
Merci le Alto Poste. Et bien sûr, nous n'allons pas oublier les auditeurs et les auditrices de Radio Campus en les saluant très chaleureusement ce soir. Donc les 106.6 auditeurs de Radio Campus seront très heureux de savoir qu'on pense très fort à eux. Alors ce soir, nous présentons le numéro 54 de la brique intitulé « L'erreur est urbaine ». Et donc cette idée-là, elle est venue assez naturellement en fait entre deux collectifs. Hein. Le premier collectif, c'est évidemment La Brique, qui sortait d'un numéro qui s'appelait « Il reste du gratin » où on avait un peu dépecé les élites locales, voilà. Et donc là, cette fois-ci, on avait décidé d'égratigner une particularité de leur politique. C'est sur les questions qui a trait au logement, et plus généralement... voilà, à la gentrification qui est très présente à Lille et particulièrement tout ce qui en découle, et on en avait conclu que c'était une histoire de contrôle social. Donc voilà, les deux axes majeurs à considérer dans ce journal, voilà, c'est le logement et le contrôle social, enfin l'urbanisme. Donc on va peut-être d'abord présenter c'est quoi La Brique. Hein. La Brique, c'est un journal qui a 11 ans, qui est plus fort que La Voix du Nord et qui est plus fier que Nord Éclair. 11 ans d'impertinence, c'est un journal qui est vendu en kiosque, hein, on se tue à le répéter, voilà, de Dunkerque jusqu'à Berck et de Hénin-Beaumont jusqu'à Armentières. Quoi d'autre? Vous pouvez vous abonner, évidemment, hein, et il y a toujours un site qui est accessible gratuitement, faut-il le préciser, qui s'appelle labrique.net. On a décidé de se rassembler pour faire un numéro un peu particulier. Hein. Ça nous arrive pas souvent de faire 32 pages de critiques sociales acérées. Et donc, on s'est associé avec l'APUFIV pour faire ce numéro. L'APUFIV, c'est quoi? C'est l'Atelier Populaire d'Urbanisme. D'ailleurs, pas mal de leurs membres sont ici ce soir et vont parler et participer, comme ils ont participé à l'élaboration du numéro. Peut-être tu veux dire deux mots
Ouais, bah alors peut-être juste dire que la soirée de ce soir, en fait, elle prend place dans un festival d'une semaine qui a été effectivement organisé par l'APUFIV, un festival qui s'appelle À nous la ville. Donc l'APU, en fait, est une asso qui aide les gens qui rencontrent des problèmes de logement, principalement des locataires, mais aussi des propriétaires occupants, des gens qui peuvent avoir des problèmes d'impayés de loyer, et donc de procédures d'expulsion, des gens qui peuvent avoir des problèmes de logement pourri, insalubre, et à ce moment-là, on essaye de les accompagner pour essayer de sortir de ces problèmes-là. Et puis, en règle générale, c'est aussi tout... récupération de charges, récupération de caution, enfin voilà, tous les problèmes qu'on peut rencontrer en tant que locataire d'un logement. Et donc ça, c'est une partie de notre boulot, et la deuxième partie, on est APU de FIV, parce que le quartier de FIV est un quartier qui est en grosse transformation depuis quelques années, qui connaît des investissements de la municipalité, de la communauté urbaine, et puis depuis 2010, et ben, c'est des promoteurs immobiliers qui viennent construire énormément de logements sur le quartier. Et donc la population change progressivement, voilà, il y a plein de choses dans l'espace public, dans les commerces qui évoluent, et donc nous, l'asso, elle dit très bien, il faut que ça change, ça s'améliore, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes à FIV dans les années 80-90, mais pas sans les habitants qui étaient là à la base, quoi. C'est-à-dire que ces habitants-là ne doivent pas sortir du quartier pour attirer de nouvelles populations. Et donc, ce discours-là, on essaye de le faire passer via plein d'actions. Donc, on a des émissions de radio sur Radio Pastel. On sort un petit journal qui s'appelle Triton Libéré. On organise régulièrement des balades urbaines et des événements. Et en fait, là, on avait envie de marquer le coup parce que samedi 31, c'est la fin de la trêve hivernale. Donc, la reprise des expulsions locatives pour tous les gens qui voilà, il y avait la trêve suspend les expulsions à partir de samedi. Le macabre balai des expulsions va reprendre ici sur l'île. Et pour marquer le coup, on fait donc une manifestation à 14h30 samedi sur la Grand Place. Et là, on avait envie de faire un peu plus gros, donc on a pris une semaine. Donc il y avait des, voilà, une cantine lundi qui s'est tenue. Il y a eu deux projections de films mardi, mercredi. Aujourd'hui, on est là. Et à partir de demain, vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi, on est à la Bourse du Travail à FIV. Et c'est voilà, débat, concert, spectacle. Et donc, on vous invite vivement à venir nous rejoindre voilà, demain soir, samedi soir. Et dimanche après-midi.
C'est qu'en fait, on avait l'idée et la volonté d'unir un peu nos voix pour faire un numéro qui soit assez complet et aussi particulièrement centré sur les quartiers populaires que sont Moulins, l'île Sud et FIV pour poser un diagnostic sur voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur l'île et qu'est-ce qui est en gestation chez les politiques et particulièrement sur les politiques urbaines. Donc n'hésitez pas vous aussi à parler avec la brique, même si on ne fera pas forcément un numéro ensemble, mais voilà, n'hésitez pas à intervenir et lever le doigt tout au long de la soirée, enfin on dirait Mediapart, enfin n'hésitez pas en tout cas à parler et intervenir, on se fera un plaisir de vous répondre et s'il y a des zones d'ombre, voilà. La soirée va se dérouler en trois grandes thématiques. Il nous a paru important de faire un premier point sur les luttes actuelles, donc évidemment ce qui se passe à la SNCF, les cheminots, évidemment ce qui se passe avec les étudiants et leur rapport avec les flics, les fachos, et aussi, faut pas l'oublier, c'est ce pourquoi ils se battent, donc c'est contre la sélection à l'université. On pourrait même étendre, comme on l'avait fait avec la loi travail, c'est-à-dire la loi El Khomri et son monde, bah là, on est plutôt sur Macron et toute cette offensive libérale qu'il est en train d'apporter. Et j'espère qu'on parlera aussi des autres luttes. Le deuxième point, ce soir, sera plutôt centré sur les luttes qui a trait particulièrement voilà, au logement. Et donc, on a fait une double page sur les luttes actuelles autour du logement, autour des expropriations, autour des grands projets urbains dans la métropole. Donc ça, on aura le détail tout à l'heure. Et enfin, un troisième point, vraiment centré sur FIV et en même temps sur la répression, qu'elle soit du côté policière ou même du traitement qui est fait par la Voix du Nord, sur ce malheureux drame qui concerne Selom et Mathis, qui sont décédés fin décembre. Voilà.
Les gardes de CRS sont sur la place, vous l'avez vu.
C'est pas parce qu'il y a une soirée ici, c'est comme ça tous les jours. Voilà, depuis plusieurs mois maintenant.
Donc sur les luttes actuelles, je vais peut-être laisser la parole à Bru, qui a suivi pas mal les manifs en ce moment.
J'appelle ceux qui étaient aussi présents à compléter. En gros, il y a des étudiants qui sont mobilisés maintenant depuis deux semaines et d'occupation d'amphi en manif et en AG. Ils tentent de s'organiser et de mobiliser plus largement autour d'eux. Donc ça s'est traduit par des occupations d'amphi à l'île 2, la semaine passée, qu'on reprit cette semaine, en début de semaine. Il y a eu une très belle manif hier, qui a rassemblé autour de 400-500 personnes. Et il y a eu encore des actions aujourd'hui. Donc le but pour eux, c'est de mobiliser sur tous les autres étudiants, essayer de faire grossir un peu le mouvement. Et là, on peut voir que régulièrement, il y a des AG qui se tiennent dans des amphis occupés. Et tout doucement, ils essayent de s'organiser, de rassembler des forces et aussi de converger. Leur but, il y a plusieurs sensibilités politiques au sein de ces mouvements. C'est ça qui est intéressant. Il y a des étudiants qui manifestent pour la première fois. Il y en a qui sont un peu plus rompus à l'exercice. Et donc, il y a différents discours dans les AG. C'est intéressant d'observer ça et d'y participer. Et le but, ça va être aussi de converger avec les cheminots. La manif d'hier a fait une petite incursion à la gare Lille-Flandre. En essayant de faire un peu appel à la solidarité des cheminots. Ça a été assez... la police était très présente aussi hier. Il y a eu les premiers lâchers de gaz lacrymo sur l'île, je pense, de la saison. Je sais pas, ça va être ça. Certainement le premier d'une longue série. Et je vous invite à vous rapprocher. Il y a donc, pour vous tenir au courant, il y a le collectif CRS qui est assez actif, où il y a les infos qui sont là. Il y a aussi la page Facebook de l'AG de lutte. Il y a tout un tas de ressources pour se tenir un petit peu au courant. Après, c'est vrai que c'est des infos qui ne circulent pas trop. Par exemple, à l'AG qu'il y a eu hier soir, donc l'AG hier était exceptionnellement à Lille 1. Je ne sais pas trop ce qui va se décider pour la suite. mais ils doivent aussi faire face à l'incursion et à la présence de membres de génération identitaire et de faf en tout genre. Donc à chaque fois, ce qu'on voit, c'est que pendant les AG, y a des interventions de génération identitaire. Avec la présence de la police qui est là, ça, pour l'instant ça perturbe surtout l'organisation des étudiants. Et ça pose des questions sur la suite,
C'était un peu tendu à partir de samedi. Si je dis des bêtises, qu'il y en a qui ont d'autres infos, n'hésitez pas à me contredire. C'est la fac de droit, donc on peut dire que c'est clair que l'UNI, le syndicat de droit dur de la fac, et puis Génération Identitaire, ça les emmerde bien parce qu'ils considèrent que la fac de droit, historiquement, c'est un peu leur plate-bande, donc que ça déborde chez eux, ça leur plaît pas trop, quoi. Donc il y a eu, depuis le début, des tensions entre étudiants, parce que les gens de l'UNI venaient dans les AG pourrir le truc et compagnie. Puis à un moment, il y a eu samedi une descente de fachos sur la fac. Ce qu'il faut voir, moi ce que j'aimerais bien qu'on ait un peu en tête aussi, on a quand même une tendance, on va dire, à gauche, quoi, à bien aimer les postures victimaires. Le fait est, c'est que là, sur ce coup-là, c'est pas nous qui nous mettons dans cette posture-là, c'est clairement les générations identitaires qui parlent de milices d'extrême gauche, ultra-violentes, machin comme ça, parce que quand ils sont venus provoquer, ils se sont fait accueillir, et qu'ils ont dû reculer, et que s'ils ont mis des bleus à des copains, ils en ont pris aussi, quoi. Donc, un aspect qu'il faut voir là-dessus, c'est qu'ils sont clairement protégés par la police. Lundi, quand ils sont venus, ils foutaient le bordel, entouraient tous les keufs, gazeuse à la main, les keufs disaient rien du tout, quoi. Ils se vantent en plus de faire les indicateurs de police, de rentrer dans les AG et de filer les infos aux flics. Ils identifient des militants, ils les balancent à la police. C'est pas nouveau, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Il y a une longue histoire de collusion flic-facho sur l'île. Je dis pas que c'est le cas de toute la police, parce que je pense que la police c'est un milieu assez compliqué et que des officiers, tous les officiers sont pas tentés par ce genre d'aventure politique, mais c'est clairement une stratégie de l'extrême droite d'essayer de se mettre dans les petits papiers de la police pour bénéficier d'une certaine impunité quand ils font leur merde. Et c'est clairement ce qu'ils sont en train de faire actuellement, et ils font ça entre autres parce qu'ils n'ont pas réussi à intimider les étudiants, et que les étudiants ont aussi un soutien plus large, que ce soit de militants et de gens du quartier. Samedi, il y a eu du bordel, il y a des gens du quartier qui sont venus donner la main pour chasser les mecs du quartier. C'est vraiment une question importante. J'ai vu passer, je crois que c'est dans 20 minutes, un étudiant qui se plaisait de Sciences Po, comme par hasard, il y a des gens très bien Sciences Po par ailleurs, qui se plaignait que c'est pas cool, c'est en train de, toutes nos mobilisations sont en train de se tourner sur ce clivage. Ouais, donc si t'as envie de parler que des luttes étudiantes et que des problèmes de réforme de la fac, je veux bien, mais enfin, l'objectif des fascistes, c'est d'empêcher que les AG se tiennent, c'est de pourrir le mouvement. Il faut apporter une réponse, et on peut parler des réformes de la fac et d'antifascisme en même temps. C'est vraiment pas contradictoire. Au contraire, ces mecs-là, la sélection, ça leur va très bien. Cette loi-là, elle va avoir une fonction. C'est environ les gens venus des milieux populaires de la fac, c'est de neutraliser complètement le potentiel politique de mobilisation qu'il y a dans les facs, qu'on voit qui est déjà actuellement, qui est vraiment considérablement amoindri par 10 ans de politique de saccage de la fac, quoi. Un truc à la con, l'île 3, qui a été toujours considérée comme une sorte de bastion rouge, où il y avait des mobilisations, on va dire jusqu'en 2009, un truc comme ça, avec la LRU. Ils ont complètement restructuré l'espace, il y a la sécu partout, il y a des caméras partout. Ils ont réussi à faire en sorte que ce soit absolument plus un lieu où on puisse se rencontrer. Pour mémoire, ceux qui ont connu le CPE à l'île 3, il y avait l'aéroport qui était une grande pièce où il y avait des chaises d'étape posées en braque partout, où les gens se rencontraient, et c'était au moins aussi important que les assemblées générales. Je veux dire, si les gens venaient en assemblée générale, c'est parce qu'ils se rencontraient à la fac. Maintenant, pour se rencontrer à la fac, on fait quoi? On discute à la machine à café? C'est à peu près le seul truc. À la fac, les gens connaissent que les gens de leur groupe de TD. Un mouvement social, c'est un moment où les gens se rencontrent. Et empêcher que les gens se rencontrent, c'est tuer le mouvement, c'est tuer un mouvement étudiant dans l'œuf. Et il y a vraiment cette stratégie-là qui est développée à la fac depuis longtemps. Bon, je m'égare un petit peu. Je vais m'arrêter là, puis s'il y a des copains qui ont des trucs à dire.
Juste s'il y a des gens qui veulent une belle démo de la position victimaire des fachos, faut aller sur le Twitter de Aurélien Veracel. Je sais pas si tout le monde voit qui c'est. C'est le chef de file des GI qui a ouvert la citadelle dans le coin, et il s'était pointé mardi qu'il est revenu. Il est revenu mardi. Il est revenu mardi avec ses copains, et il avait fait un live tweet où on le voyait courir comme un lapin. Qu'il a depuis supprimé, ils ont refait un montage de la vidéo sur YouTube, mais les vidéos du live tweet ont été récupérées. Du coup, on va pouvoir. Il y a un montage qui va être fait, je pense, et on les voit bien courir et dire excusez-nous, on a un problème de connexion. c'est assez drôle. Ils ont porté plainte aussi apparemment pour violence aggravée de la part de militants.
Il y a eu deux plaintes déposées par les fascistes depuis lundi. Deux plaintes.
Trois. Alors qu'ils ont même gazé à travers la grille quand même.
Ouais. Bah, si je peux me permettre, au-delà aussi des fascistes, il y a aussi la rupture de la franchise universitaire qui est en gros dont tout le monde se fout maintenant en fait, que ce soit sur Lille ou dans d'autres campus. Il y a 2 ans pendant à la loi travail, quand il y avait l'occupation d'Archimède, de l'amphi de Lille 1, ou quand il y avait des occupants à Lille 3 qui occupaient des amphis ou des halls, bah, personne n'a jamais envoyé la police. Enfin si, mais pas pour déloger des gens. Voilà. Mais en gros, pour surveiller le nid à casseurs qui était Archimède, ce genre de choses. Mais en gros, là, on est clairement sur une militarisation des universités depuis Macron, quoi.
Si je peux rebondir là-dessus, parce que c'est un truc qui me semble vraiment intéressant. Je pense qu'il y a une affaire de génération dans les bureaucrates qui gèrent la fac. Avant, on avait des bureaucrates qui s'étaient fait dans la recherche et qui pouvaient avoir par ailleurs un petit passé de 68 arts, qui avaient été vite fait de gauche, qui avaient des copains à gauche. Maintenant, on a des mecs qui se sont fait dans les années 80, qui ont une culture politique, on va dire d'extrême centre ou un truc comme ça. C'est des macronistes convaincus pour la plupart. Et le dialogue social, leur conception du dialogue social, c'est d'envoyer les flics aux étudiants quand ils n'ont rien à leur faire. Un autre truc aussi qui est révélateur, c'est la faillite des organisations étudiantes classiques. Et là, je pense qu'il y a vraiment une faillite, ils n'arrivent plus à mobiliser. Après, ils boudent quand des étudiants s'organisent de manière autonome. Mais il faut voir le bordel que c'est chez eux. Hein. Je ne vais pas vous faire une histoire de l'UNEF, mais entre les histoires de sexisme ultra graves qui se sont tapées, toutes les trahisons qu'ils ont faites depuis qu'ils existent, le machin s'est complètement effondré. Il y a quasiment plus de présence réelle, militante de ces gens-là. Et ces mecs-là qui étaient capables de faire le tampon entre les mouvements les hiérarchies, bah, ils ont disparu. Donc ils ne savent plus à qui parler. Ils n'ont plus d'interlocuteurs dans la fac, des gens mous, conciliants, qui sont prêts à trahir le mouvement. Ils n'ont plus d'interlocuteurs comme ça. Donc le seul recours qu'ils ont, bah, c'est d'envoyer les keufs. Les keufs, et tu parles de militarisation, mais il y a aussi des vigiles qui peuvent appartenir soit à la fac, c'est les services généraux de la fac, soit qui vont être carrément des boîtes privées. Et sous prétexte de terrorisme, évidemment, le contrôle des cartes d'étudiants est systématique, mais c'en est à un point où être étudiant de Lille 3, ça devient compliqué de rentrer à Lille 1. On est sur des trucs comme ça, et la vidéosurveillance sur la fac, elle est généralisée depuis, bah, justement, depuis, je crois, un peu après 2010, et on a vraiment des tensions récurrentes avec les services de sécu qui viennent squatter les AG pour écouter ce qui se dit. Ils veulent absolument empêcher ce qui se passe, quoi.
Pour réagir là-dessus, moi, je suis complètement d'accord avec le truc qu'il faut faire le lien avec plusieurs luttes et que du coup, là, il y a... Ouais, en fait, ce mouvement, il est hyper bien parce que c'est vraiment en train de gagner des gens qui sont pas dans quelconque militantisme au départ et tout, et donc ça c'est hyper précieux. Et en fait il y a vachement de trucs qui sont maximisés de plein de côtés, et en fait on est en train de rater je pense un petit peu des ponts possibles à faire, hein. Par exemple, enfin tu vois, quand tu dis par exemple il y a le soutien du quartier, bah il y a le soutien, il y a eu une fois à un moment des gens du quartier qui sont venus soutenir, mais le quartier, pour l'instant, il n'y a aucun lien, tu vois. Donc ça, les personnels de sécurité, bon, nous on est en contact tout le temps avec eux et tout, bah eux ils sont clairement pour le mouvement, ils sont contre ce qui se passe, mais ils sont écrasés par plein de choses différentes qui leur arrivent dessus, et ils se font traiter comme de la merde par certains étudiants qui justement disent bah voilà, parce qu'ils ont une approche de l'autorité et de ce qui représente du coup là l'autorité et une violence, voilà, qui est légitime. Mais le problème, c'est qu'en face d'eux, ils ont des fils d'ouvriers, des fils des issus de classe populaire, enfin voilà, qui sont mis face à un truc où bah ouais, si là ils se prennent une insulte, bah ils seront contre eux. Et donc là, aujourd'hui, il faut construire le clivage. Et le problème, c'est ça, tu vois, c'est qu'il y a quand même... On risque de louper ça. Donc tout ce qu'on entend de oui, la crise fasciste, antifasciste est en train de prendre le dessus là-dessus, c'est oui une stratégie par certains et une manière de voir, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte parce que sinon ça va, surtout que là en plus il y a les examens et tout qui arrivent et tout, ça va péricliter. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le mouvement il grossisse. Aujourd'hui, les plus mobilisés, ceux à gauche, ils sont mobilisés. C'est comme d'habitude et tout, nous, là l'enjeu, c'est de mobiliser ceux qui ne le sont pas d'habitude. C'est là maintenant, c'est ça quoi. C'est l'enjeu stratégique.
Peut-être un petit mot supplémentaire. C'est que moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a différents sons de cloche. À Lille 3, vendredi dernier, les étudiants sont expulsés par les CRS. Ils se retrouvent où juste après? À Lille 2. L'AG d'hier a eu lieu à Lille 1. Donc on peut dire qu'en gros, la fusion des universités a lieu avant tout dans la tête des étudiants parce qu'ils sont extrêmement mobiles sur... Mais c'est peut-être quasiment... Non mais c'est une blague. Mais c'est quasiment une des premières fois qu'on voit les étudiants profiter autant des trois universités qu'avant. Avant, elles étaient extrêmement... elles étaient extrêmement cloisonnées. Maintenant, en fait, il y a une mobilité aussi... Peu importe, moi c'est la manière dont je le perçois. Et donc c'est assez amusant de savoir que en même temps en termes de symbole, hein, c'est-à-dire le vendredi, les CAF ils arrivent à Lille 3, les copains se retrouvent à Lille 2, et puis hier la G se fait à Lille 1. Et ça en termes de symbole, ça donne une espèce de frontalité aussi. Et puis ce qui est hyper révélateur pour finir, c'est la façon dont les directeurs locaux considèrent le mouvement social. C'est-à-dire que le son de cloche à la fac de droit est totalement différent avec la fac de Lille 3 et même de Lille 1. C'est-à-dire que Lille 1, ça se passe dans l'indifférence. Lille 3, on envoie les keufs. Et Lille 2, y a une espèce de pas de bienveillance, mais en tout cas de jeu stratégique qui est composé pour peser un maximum possible. Enfin, les attaques fascistes vont dans ce sens-là. Je vous propose de passer au point suivant, peut-être, si, à moins qu'il y ait des gens qui veulent intervenir directement sur...
Non, mais en fait, le fait que les étudiants soient mobilisés à Lille 1, Lille 2 et 3, ça n'a rien à voir avec la fusion d'université. C'est juste que la présidence de l'université, la présidence Camard, mais comme beaucoup d'autres présidences en France, en fait, assume totalement d'envoyer des flics à chaque fois qu'il y a une occupation, à chaque fois qu'il y a un blocage, etc. Et que donc, en fait, les étudiants vont là aussi où ils peuvent aller, quoi. Ça va pas plus loin que ça, quoi.
Je veux dire, en fait, c'est pas tant de dire qu'on va là où on peut, c'est qu'on se dit aussi qu'en bougeant de fac en fac, on peut aller récupérer d'autres gens en fait, parce que si on va à Lille 1 en disant ouais on vient se faire virer Lille 2, etc., on s'est fait péter par les flics et tout, ça peut mobiliser aussi d'autres gens en fait, et on essaye plus de bouger de fac en fac, même pour être mobile vis-à-vis des flics et pas se faire péter tous les jours à la même fac en fait, parce que ça nous sert à rien. Du coup on préfère bouger un peu et être des individus mobiles comme dit la BAC.
Ok, en tout cas, ce qu'on peut peut-être constater, c'est qu'il y a des leçons qui ont été retenues des mouvements précédents. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le jeu du chat et la souris se passe beaucoup mieux qu'avant et qu'on est quand même beaucoup plus réactif et beaucoup plus mobile. Et ça, c'est des choses vachement comment dire, porteuses pour l'avenir du mouvement qui est seulement, je pense, en train de commencer. Mais à propos de lutte, il y a une lutte particulière qui nous a attachés sur le numéro 54, l'erreur est urbaine, qui concerne surtout les luttes urbaines et la manière dont les gens s'organisent dans les quartiers. Et donc, la BRIC, avec l'APU, a décidé de mettre la focale sur certains quartiers, sur certaines luttes. Peut-être donner la parole à quelqu'un de l'APU.
Il y a une double page dans le journal. Qui s'appelle Désarmons le béton, si je me souviens bien. Désarmons le béton, et qui rend compte, en fait, de manière un peu synthétique, de quatre luttes urbaines qui ont eu lieu ici, dans l'agglomération, sur les quelques dernières années. Donc des luttes urbaines, c'était principalement parce qu'il y avait des projets de rénovation qui étaient initiés par la communauté urbaine ou les mairies. Et donc les projets de rénovation, c'est on arrive sur un quartier, ce quartier on dit ça ne peut pas continuer comme ça, il faut transformer, donc il faut démolir les maisons et donc faire bouger les populations. Et donc ces populations, en fait, elles se sont organisées contre ces projets de rénovation parce que contrairement à ce qu'on montre tout le temps, qui sont des quartiers ghettos, qui sont des quartiers stigmatisés, en fait les populations qui vivent dans ces quartiers apprécient leur quartier, ont plein d'échanges entre voisins, ont plein de manières de se filer des services, de se donner des trucs et tout ça. Et donc c'est des populations qui veulent rester sur place. Et donc là, on fait un focus sur quatre quartiers, secteurs. Donc le premier, c'est celui du Pile, sur lequel on a fait un film qui a été projeté mardi. Un second qui est sur celui de la Lyonderie, qui était une ancienne cité de transit. Les cités de transit qui ont été construites dans les années 70 pour reloger les habitants des bidonvilles et des courées insalubres. Et aujourd'hui, ces personnes-là en fait sont très attachées à leur territoire et donc ne veulent pas partir. Ensuite, on a l'île aux Pépinières, qui est un secteur dans la rue du Faubourg de Roubaix, à proximité de Ralil, où là, Ralil avance sur le quartier. Et le dernier, c'est l'île Sud. Donc, je sais pas si vous voyez l'île Sud, il y a le commissariat. Et de l'autre côté, ils veulent construire un énorme centre commercial qui s'appelle l'Illenium. Et à côté, ils veulent faire un peu place nette, c'est-à-dire que les anciens habitants bougent un peu, qu'on puisse avoir des meilleures maisons, quoi. Et donc ces quatre luttes-là, l'association de la PUFIV les a rencontrées parce qu'ils sont venus nous voir, nous demandant des services pour essayer de comprendre un peu quelles étaient les procédures qui étaient mises en place. Souvent, la procédure qui est très contraignante, c'est la déclaration d'utilité publique qui permet d'exproprier des personnes. Donc c'est des personnes qui étaient généralement propriétaires. Et donc des maisons qui avaient été payées par des ouvriers à force d'un travail de toute une vie et qui aujourd'hui se font mettre dehors. Et donc elles venaient nous voir pour nous demander un peu des conseils sur ces choses-là. Et je vais pas en faire beaucoup plus, mais juste de dire quatre luttes comme ça dans la même agglomération par des personnes qui sont pas des militants. Des personnes qui sont des ouvriers, qui sont des gens qui sont sans travail et qui se mobilisent parce qu'ils ont quelque chose à défendre. Et quelque chose à défendre, c'est quoi? C'est leur vie, c'est leur baraque, c'est leur vie. En fait, ça n'existe pas beaucoup en France, à notre connaissance, quoi. D'avoir plusieurs luttes qui soient mises en avant comme ça. Donc on a voulu faire des focus sur tous ces habitants. Et dire que voilà, il est en train de se passer quelque chose d'important en fait dans l'agglomération. C'est beaucoup un aménageur qui est chargé, donc l'aménageur qui est la communauté urbaine lui donne le droit à l'aménageur de mettre en place les projets et qui s'appelle la fabrique des quartiers et qui intervient dans les quartiers anciens, les quartiers de courée, les vieilles maisons ouvrières. Et c'est beaucoup cet aménageur-là qui est en train de mettre en place des choses qui sont, qui sont très dures pour les habitants qui ont à le subir, quoi. Donc on peut rentrer dans le détail des luttes, mais je ne suis pas sûr que ce soit le moment maintenant. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez important en fait sur la globale.
Peut-être s'attarder sur une des luttes, ce serait bien pour...
Pas de soucis, mais il y a un truc à développer par rapport à la SAD. Bah, tu disais, les universités Lille 1, Lille 2, Lille 3, elles sont tombées sous une injonction, c'est la fusion, il y en a une autre, on est tombé dedans, c'est la métropolisation. La BU est un peu tombée dedans, un peu par injonction, on se rend compte qu'en fait, un peu partout sur le territoire de la métropole, on est à Roubaix, à l'issue, alors qu'on a PUFIV à la base. Et la PUFIV est arrivée aussi sur un projet de rénovation urbaine, qui est l'île aux Pépinières. Et moi, ça fait 2 ans, enfin sans étudier tout le bazar, que je suis dedans. Il y a un truc à souligner, c'est le cynisme en fait du bazar là. C'est l'injonction de... On va nettoyer un quartier, on va rendre propre un habitat, on se rend compte en fait que les habitants ils sont pas assez propres pour le truc, du coup il faut les dégager. Et en fait c'est ça qui a souligné là-dedans. Et finalement, quand les gens viennent nous voir, venant de l'issue des tournages, enfin je veux dire, on a eu des gens dans le local, les habitants de l'issue qui étaient venus à notre assemblée générale l'année dernière, récemment les habitants de Saint-Just qui sont venus récemment, il y a ça qui nous renvoie, c'est envie de pas dialoguer.
Peut-être expliquer c'est quoi l'île aux Pépinières.
Pardon, l'île aux Pépinières c'est une rue en fait, c'est sur le faubourg de Roubaix, qui du coup fait partie du plan de Euralille, pour la faire vite. Voilà. Euralille, qui se situe à Saint-Maurice. En fait, dans l'extension de Saint-Maurice, les Bourges, ils vont arriver en train assez vite, il faut aller quelque part, ces pauvres-là, avec leur maison, en plus c'est super beau là-bas, il faut leur dire au revoir, quoi. C'est un peu ça qui se passe, pour la faire vite.
Ouais. Si je peux me permettre, c'était un des derniers territoires ruraux de Lille, c'était le dernier bail rural de Lille. Il y avait une immense pépinière avec des arbres et tout, un truc gigantesque. Il y avait une fleuriste qui était obligée de se barrer. Et nous, à la PU, c'est le premier je sais pas, de la première rénovation urbaine sauvage dont on nous a parlé. Et en fait, ce qu'on a constaté sur les différentes luttes contre la rénovation urbaine, c'est toujours le même procédé de concertation de merde, en fait. Des réunions de concertation, c'est ok, vous voulez changer quelle couleur aux maisons qui vont être construites. Enfin, c'est un petit peu ça, mais dans ce genre de truc, les élus, les aménageurs, les architectes font mine d'écouter les habitants pendant 30 secondes, une minute, le temps de leur intervention, et après, en fait, tout est déjà ficelé, en fait. Tout est déjà ficelé, en lien avec, notamment avec les programmes de rénovation urbaine qui ont été décidés avec l'ANRU, par exemple, dans de nombreux quartiers. Et du coup, en fait, nous, ce qu'on veut expliquer aussi, ce qu'on fait avec notre association, c'est en fait, d'avoir un autre rapport à la rénovation urbaine. On n'est pas forcément contre la rénovation urbaine, c'est ça qu'il faut dire. Il y a des trucs pourris, il y a des trucs qu'il faut rénover. Mais en fait, il faut que les habitants aient leur mot à dire, en fait. Et en fait, dans tous les cas des personnes qui sont venues nous voir, ils n'ont jamais eu leur mot à dire, en fait. C'est ça, en fait, qu'on veut aussi montrer, en fait, à tout le monde, en fait. C'est pour ça que les habitants, ils sont tellement contents. Ne serait-ce que de parler pendant, je sais pas, une demi-heure du fait que la mairie, des promoteurs, des harcèles de tracts, d'offres, en mode d'offres au rabais, hein, parce que des maisons qui valent genre des centaines de milliers d'euros, qu'on estime à 70 000, à 80 000 euros, alors que les gens, ça fait 30 ans qu'ils habitent ça, ils ont rénové ces baraques. On en a des dizaines d'exemples comme ça.
En tout cas, s'il y a bien un exemple où il y a un habitant qui a peut-être plus le droit qu'un autre, c'est sur Saint-Sauveur. On prend l'exemple de Martine Aubry qui, alors que le projet est déjà ficelé, fait magiquement atterrir une piscine olympique sur un...
Saint-Sauveur, c'est particulier parce que ça a été vidé avant de... En guillemets, c'est un peu particulier pour nous comme lutte Saint-Sauveur. Quelque part, c'est pour ça qu'on n'est pas dessus. Parce qu'il n'y a pas d'habitants, en fait, à Saint-Sauveur. Il y a les riverains, il y a les gens, et il y a le plan de rénovation urbaine, bah, du coup, qui va influer le quartier de Moulins, qui est juste à côté, qui est quartier populaire à côté. Mais là, on ne parle pas de ça, en fait. On parle de gens qui habitent à des endroits à qui on va leur dire bah, « Vos maisons, elles ne veulent plus rien, et vous allez dégager, en fait. Ouais. » Parce que vous ne rentrez pas dans la mondialisation. Vous ne voulez pas assez, quoi.
La métropole.
Faudra voir... Ouais, non. Vous ne voulez pas assez pour... Et à Fiche, c'est ce qui se passe. Notamment. Avec va vendre un... mais par des trucs assez subtils, et finalement que la mairie Lille arrive à bien jouer.
La mairie d'Ille et la métropole,
ouais.
et les mairies de Roubaix ou ce genre de choses, ou même ce que j'appelle des potentats locaux, des conseils de quartier, des conseils citoyens qui sont au final qui sont de la poudre aux yeux. La démocratie participative, ça a juste un...
Mais sous couverture d'enfer, surtout.
Ouais, sous couverture de... Bah, écoutez, on vous écoute. On a pris en compte vos remarques. Regardez, le Conseil citoyen va détruire une maison en moi. Enfin, ou des trucs du genre. Enfin, c'est vraiment des trucs où, en fait, tout marche par le rapport de force, en fait. Ce genre de choses, quoi.
Ces luttes-là, on les met derrière... à la PU, on les met derrière un terme qui est la question du droit à la ville. Alors, et j'ai oublié de le dire quand on a présenté en fait la semaine qu'on a organisée, c'est-à-dire que on va arriver bientôt au cinquantenaire de mai 68, et nous on a voulu fêter le cinquantenaire d'un bouquin qui a participé à créer mai 68 et qui s'appelait Le droit à la ville, d'un sociologue qui s'appelait Henri Lefebvre. Et ce droit à la ville-là, comme lui il le décrit en fait dans son bouquin, c'est un droit à ce que les classes populaires aient accès au centre-ville, aient accès à toutes les fonctions, les fonctionnalités que donne le centre-ville, consommation, loisirs, habitation, qu'elles puissent rester dans le centre et qu'elles ne soient pas expulsées des centres pour être foutues dans des putains de quartiers périphériques. Et où aujourd'hui on voit que quand c'est les quartiers périphériques qui sont rénovés, bah, les gens on les fout encore plus loin, on les balance dans le périurbain en fait. On les balance à la campagne. Et donc ça, on l'a vu hein, sur même des rénovations à Fives où on proposait des logements à Armentières, où on proposait de sortir en fait juste de l'agglo, alors qu'il y avait des familles qui habitaient là. Alors certes dans des baraques pourries et des maisons un peu compliquées, mais en tout cas elles avaient accès en fait à tous les commerces, toutes les choses, toutes ces choses là. Et donc ces luttes là, on les englobe aussi derrière ce terme là qui est un terme important à se réapproprier. Et à reprendre, et on fête, c'est 50 ans aujourd'hui. Ça a été repris à toutes les sauces, nous on la reprend à la sauce un peu plus radicale, c'est-à-dire avec une analyse de classe aussi. Nous ici on est principalement de la classe moyenne, on l'appelle comme on veut, mais l'idée c'était là qu'on puisse se battre aussi pour les classes populaires. Et leur filer un coup de main. Et donc ces quatre luttes, c'est clairement ça qu'elles représentent. Et voir les fractions très basses sur des luttes comme la Lyonderie dans des cités de transit, c'est des personnes qui sont sans travail depuis plusieurs générations, quoi. Et donc il faut qu'il y ait aussi des formes d'alliances de classe qui se mettent en place. Il faut qu'on aussi, nous, on sache les privilèges qu'on a par rapport à ces choses-là et se mobiliser aux côtés des gens qui en crachent le plus.
C'est très bien parce que tu me trouves une transition toute faite. C'est que, en fait, tu dis, il y a les 50 ans de ce bouquin-là, il y a aussi les 50 ans de la métropole lilloise, enfin, qui s'appelle aujourd'hui la MEL, et on se demande toujours de quoi elle se mêle. Et puis donc, voilà, enfin, il y a aussi un autre bouquin qui est sorti là très récemment, qui s'appelle Sociologie de Lille, qu'on vous invite vivement à lire et qui nous a pas mal inspiré pour faire ce numéro-là. Mais dans l'émergence de c'est qui les indésirables et pourquoi ils existent, eh bien on peut compter toujours sur un formidable journal qui s'appelle La Voix du Nord. Je vais peut-être laisser la parole à Stella qui va peut-être nous dire deux mots sur la manière dont les gens sont perçus à FIV et même au-delà, puisque il y a un traitement très particulier de l'affaire Salomé Matisse dont on va parler tout à l'heure. Entrons dans le vif du sujet.
Alors, bonsoir à toutes et toutes. Ouais, comme rappelé Loïc, c'est vrai que la Brique, elle a toujours eu à cœur de dénoncer les violences et les crimes policiers, comme en témoigne il y a de ça de plusieurs années, on avait essayé d'enquêter autour de la mort d'Hakim Djellassi et du traitement médiatique qu'on avait fait La Voix du Nord. C'est pour cette raison de la récurrence en fait des crimes policiers qu'on a décidé de mettre en double page centrale une affiche, ce qui est destiné à être une affiche où on retrace un peu qu'entre 2000 et 2017, il y a eu 205 personnes qui sont décédées lors d'interventions policières. Et chose qui est encore arrivée donc mi-décembre avec le drame qui a causé le décès de Selom et de Matisse. Pour faire un bref rappel des faits pour les personnes qui ne sont pas au courant de l'affaire, le 15 décembre dernier, donc le 15 décembre 2017, en fin de journée, il y a quatre jeunes, donc Aurélien, Ashraf, Selom et Matisse, qui sont posés près d'une cité à Saint-Maurice, qui voient arriver au loin la police, qui prennent peur, qui s'enfuient. De là, ils se retrouvent sur des voies ferrées. Et donc, ils seront happés tous les quatre par un train et ça causera le décès donc, de Selom et de Matisse. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire dans les pages de la Brique, c'est de montrer qu'il y a une véritable mise en scène qui permet qu'on arrive à ce type de situation et de drame et qui sont présentés de telle façon à ce que ça ne puisse pas être perceptible. Je parle de mise en scène parce qu'à longueur de page dans la Voix du Nord, c'est pour ça qu'on y a dédié toute une page là, à longueur de page, le quartier, FIV, d'autres aussi sont stigmatisés et ça crée en fait un climat qui est anxiogène, qui est toujours davantage relayé et qui permet de justifier les demandes de politique, Martine Aubry en tête, pour demander plus de moyens, qui se traduisent systématiquement par plus de moyens répressifs, donc plus d'effectifs policiers et plus d'équipements pour ces derniers. De cet accroissement des effectifs, il y a nécessairement une hausse des tensions et de violences avec les personnes du quartier, renseignements pris auprès des premières personnes concernées. Et que ce soit donc une hausse des violences ou une hausse du harcèlement policier via des contrôles quotidiens, systématiques, plusieurs fois par jour. Voilà. Et donc tout ce climat, toute cette hausse des tensions aboutit en fait au drame qu'on a connu vis-à-vis de Selam et Matisse. Et ce qu'on veut questionner, c'est que peu importe ce qui motive un contrôle, peu importe pourquoi les policiers sont plus nombreux dans un endroit, en fait, à aucun moment, une vie vaut plus qu'une autre. Et en fait, à aucun moment une vie vaut plus qu'une autre. Et pourtant, quand on parcourt cette liste macabre de personnes, des 205 personnes qui ont été tuées lors d'interventions policières, bah, y a pas beaucoup de femmes et y a pas beaucoup de blancs. Voilà, donc c'est des choses qu'on peut questionner. Si on a fait un article sur la Voix du Nord et sur ce traitement spécifique autour de la mort de Selam et Matisse, c'est parce que la stigmatisation, elle fait partie du processus de criminalisation des individus qui justifie la demande de l'accroissement des effectifs policiers dont je parlais à l'instant. Et en plus, dans les pages de la Voix du Nord, on procède à une véritable déculpabilisation des forces de l'ordre, notamment avec la puissance de diffusion d'un quotidien régional qui a le monopole en fait dans le coin. Ou plus globalement des médias dominants. Mais si on a centré sur la critique sur la façon dont la Voix du Nord a abordé les événements, c'est parce qu'il a défendu les intérêts des institutions, donc de la justice, de la police, hein, en relayant la voix de la préfecture et du parquet avec énormément de complaisance. On a fait cet article aussi parce que ces papiers sont dangereux, parce qu'ils ne permettent à aucun moment de se poser les bonnes questions. Puisque là, dans le cadre de ce qui concerne donc Aurélien, Achraf, Selam et Matisse, ce qui est relayé par la Voix du Nord, ça va être le parcours scolaire des personnes, la question de l'indélinquance, qu'elle soit prouvée ou non, mais en fait, à chaque fois, c'est amené dans ces papiers-là. Alors qu'on se devrait dire que peu importe le profil des personnes, la violence policière, elle a jamais à s'exercer en tout cas jamais à rester impunie. En fait, on peut se dire progressivement que cette violence-là, elle était légitime. Parce qu'en fait, après tout, qu'est-ce qu'ils faisaient, ces quatre jeunes-là, dans un coin? Pourquoi ils étaient en train de zoner? Et du coup, on ne se pose pas les bonnes questions. Tout ce climat donc, qui est amené par les politiques et par la presse, qui vont désigner les ennemis intérieurs, ils aboutissent à une occupation policière du quartier de Fives. On parlait des quarts de CRS qui sont là, pas parce qu'on est là ce soir ou pas parce qu'il y a une semaine de lutte organisée par l'APU, mais parce qu'en fait ils sont là depuis la fin du mois de septembre. Et que cette concentration des moyens, elle est justifiée aussi parce que Fives, c'est ce qu'on appelle un quartier prioritaire, du coup, qui est défini par des indicateurs sociaux. Là, il y a plus de chômage, il y a plus de précarité ici. Donc, on va concentrer les moyens de la ville ici. Et les moyens que la ville, elle décide de concentrer, c'est des effectifs policiers. Alors après, forcément, il y a de la violence, il y a des... Mais voilà, on peut toujours questionner la façon dont on va chercher à la faire diminuer. Et ici, Martine Aubry va mettre en avant qu'elle revendique un plan contre la délinquance ou qu'elle réclame un effectif policier plus important pour faire comme à Marseille, pour lutter comme à Marseille contre la drogue et contre la délinquance. Sachant que à Marseille, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a eu absolument aucune influence sur le trafic de drogue. Donc le plan de sécurité mis en place à Marseille n'a eu aucun impact sur le trafic de drogue. Par contre, il y a une augmentation des règlements de compte très significatifs et une augmentation du travail des mineurs. Voilà, donc c'est de ça qu'on s'inspire pour mener une politique sécuritaire à Lille. Et donc ce qu'on a cherché à faire dans le journal, c'était de questionner la mise en place de ce dispositif et de ses conséquences, et de ce qu'on a recueilli comme témoignage auprès des personnes du quartier, dans d'autres quartiers qui sont touchés aussi par une présence policière accrue. C'est que les policiers sont là, ils insultent, ils commettent des actes violents, c'est du harcèlement, c'est sans cesse, c'est du gazage, c'est des insultes, c'est choper les jeunes pour les amener... je sais pas où, pour les laisser rentrer tout seuls par leurs propres moyens. Donc...
Je peux vous lire là, si vous voulez, juste quelques témoignages qui ont été recueillis parmi mille autres. Mais ça donne juste un peu le ton, en fait, de la manière dont on traite les jeunes, parce qu'on les appelle comme ça dans les quartiers populaires. Hein, peut-être, ouais. Mais juste là, écris-le, c'est important. Ils connaissent bien les points du corps où ils peuvent frapper sans laisser de traces. Parce que quand ils nous frappent, souvent c'est derrière la tête, derrière les oreilles, sur le thorax. C'est toujours comme ça. Un autre. Les keufs, après m'avoir mis dans le camion, ont chargé la moto et m'ont écrasé la jambe avec. Le chauffeur me traitait de sale bougnoule et les autres, ils me mettaient des patates. Après les coups de taser, ça c'est encore un autre. La flic disait à ses collègues de mettre de l'eau dessus pour que ça rougisse bien. Je continue, c'est dans un autre quartier, là c'est un éducateur des jeunes, parce que c'est comme ça encore une fois qu'on les appelle, qui dit, donc c'est un contrôle d'identité dans le métro. Et d'un seul coup, les keufs commencent à se rendre compte que ce mec là, en l'occurrence, c'est l'éducateur des jeunes d'un quartier du côté du boulevard de Metz. Et d'un coup, le beau papier s'il vous plaît se transforme en sale fils de pute. Mon seul désir est de pas être en fonction pour te défoncer la gueule. Il continue, donc la victime témoigne qu'il a reçu des coups de coude, des petites claques, des clés de bras, jusqu'à ce que le plus jeune des trois flics calme ses collègues. Enfin voilà, en fait c'est juste comme ça que ça se passe. Et en fait là depuis septembre, ils sont sur la place, il y a des patrouilles dans le quartier avec la mitraillette en bandoulière, et c'est juste comme ça que ça se passe, tous les jours. Donc effectivement, au bout d'un moment, la pression elle monte, et puis il y a deux jeunes qui se font happer par un train parce qu'ils ont tenté de fuir la police. Et non pas pour prendre raccourci, comme le dit la Voix du Nord, absolument pas d'ailleurs. Parce qu'en fait, il y a les keufs qui débarquent à 6, la matraque au bras, et qui sont prêts à les tabasser. Mais sauf qu'en fait, tous les jours, c'est comme ça. Donc au bout d'un moment, effectivement, on commence à repéter un petit peu les plombs. Peut-être que tu veux...
Donc je suis la maman assez l'homme. Voilà. Donc, bah effectivement, en fait, mon fils m'avait prévenu à plusieurs reprises qu'il se faisait frapper par la police. Et des coups, mais gratuitement. Hein. C'était même pas... c'est un simple contrôle. Hein. Hop, on met dans un coin, on tape, on frappe. Et on le fait partir dans un état... il rentre à plusieurs reprises à la maison avec des fringues craquées, ou des fringues qui ne lui appartenaient pas parce que des copains lui prêtaient. Et ce soir-là, effectivement, voilà, il est arrivé ce qui est arrivé. Et on sait qu'ils ont eu peur de la police. On sait qu'effectivement, ils étaient coursés par la police. Maintenant, la Voix du Nord a dépeint un tableau des jeunes, mais qui est horrible. Mais vraiment horrible. Mais moi, ça m'a scandalisé. Vous n'avez pas idée à quel point je hais la Voix du Nord. Parce que ce qu'ils ont fait... En dépeignant ces enfants, ils ont biaisé l'opinion publique. C'est-à-dire qu'automatiquement, les gens qui lisent La Voix du Nord vont se dire « Ah bah c'était quatre voleurs, quatre délinquants, déscolarisés. » Après tout, bah, ils ont mérité. Parce que j'ai lu ça, hein. Sur Internet, j'ai lu ces trucs-là. Mais c'est ignoble ce que les gens peuvent écrire, quoi. Donc maintenant, moi, j'espère sérieusement qu'on va réussir à se battre. On sait que ça sera long. On va enlever toutes ces images-là qui peuvent se dire « Ah bah c'est des jeunes délinquants, ils ont le droit de mourir. » Non, personne. Personne n'a le droit de mourir. Et le contrôle au faciès, il faut arrêter ce genre de conneries, quoi. Tous les jeunes ici, ils souffrent. Mais vraiment, ils souffrent vraiment, quoi. Parce que dans des coins, on tape. Ou même quand ils prennent, ils arrêtent. Ils arrivent au commissariat. Il y a deux entrées pour entrer au commissariat. Par les escaliers ou un autre. Et comme par hasard, quand ils passent par l'autre entrée, les gamins, ils arrivent, ils sont boursouflés. Ils ont des coups partout sur la gueule. Mais là, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra. Et personne ne veut croire les jeunes. Ok, les jeunes font les bêtises. Ok, en même temps, il faut peut-être réfléchir pourquoi ils font les bêtises. Je pense que ça remonte à beaucoup plus loin que ça. C'est pas le jeune qui a décidé du jour au lendemain à faire des bêtises. Peut-être parce qu'on leur donne pas leur chance. Moi, mon fils, il a repris une dynamique de vie. Il allait rentrer à la fac en septembre. Pour un gamin non scolarisé, je sais pas où ils ont pris leur recherche. Hein. Pour moi, franchement. Mathis, il était à Baggio. Il était scolarisé. Vous êtes sûr que la Voix du Nord, c'est des journalistes? J'ai un doute, là. Franchement, j'ai un doute. Non, j'ai vraiment un doute sur leur travail journalistique, quoi. Donc là, j'ai une haine concernant la Voix du Nord. France 3 commence à me taper un petit peu sur le système aussi, parce qu'ils ont sorti des conneries, là. Je crois qu'ils n'ont pas fait leur travail non plus. Et là, maintenant, je dis, stop, quoi. Il faut franchement qu'il y ait un travail de fait et qu'on arrête de stigmatiser tous les jeunes. C'est parce qu'ils sont métis, qu'ils sont en jogging, en basket, qu'automatiquement, c'est un gars qui va sortir une arme et tirer dans la tête de quelqu'un, quoi. Non. Voilà, quoi, c'est tout ce que j'avais à dire.
Et du coup, rebondir sur ce que tu disais par rapport aux politiques de la ville et aux mannes d'argent qui sont débloquées, notamment pour les quartiers prioritaires, ça en dit quand même long, enfin en tout cas à FIV, sur le fait que en fait, tout cet argent-là qui est débloqué, il va être juste mis dans de la protection, dans de la sécurité déguisée, dans des abus qui sont faits par la police ou ce qu'on veut, alors que c'est pas ce qu'on demande. Enfin, je pense que si les gens du quartier étaient interrogés sur qu'est-ce que vous voulez pour votre quartier ou quoi, je suis pas sûre que
À part les habitants de la rue Pierre-le-Grand qui vont dire que oui, il y a des trucs de quoi, d'où quoi, mais peut-être pas que. Enfin.
C'est là que la Voix du Nord, elle est hyper forte et que c'est pas pour rien. En fait, c'est pas qu'une question d'acharnement. Genre, eux, ils représenteraient les médias dominants et nous, petit journal indépendant, on s'amuserait à cogner dessus. C'est parce qu'en fait, ils ont une force de mobilisation qui est quand même assez incroyable. Donc, bien avant la mise en place de ce dispositif test de sécurité, donc à la fin du printemps dernier, la Voix du Nord a relayé une pétition qui émanait de quelques habitants qui demandaient un accroissement des forces de l'ordre, ou en tout cas un accroissement de la présence policière parce que des rodéos, parce que il y a... Bon. Mais du coup, la Voix du Nord relaye ça, avec tous les articles qu'elle met en permanence sur FIV, qui a changé, qui est violent, Ouais. Avec des établissements qui ouvrent. On cite sans peine dans la Voix du Nord que quand même il y a beaucoup de coiffeurs et beaucoup de kebabs, on se demande comment ils tournent. Puis juste après, on va dire quand même c'est un quartier où il y a beaucoup de drogue. Du coup, qui fait des raccourcis très grossiers, mais qui marchent en fait. Et en fait, quand ils relayent une pétition de 3-4 habitants qui vont dire « on en a marre des rodéos, on veut plus de policiers », ben ils relayent et du coup, il y a 5000 signatures. Donc en fait, les gens, ils sont en demande. Ils sont en demande parce que la Voix du Nord, elle participe à créer cette demande et à l'augmenter et à l'alimenter. Du coup, de fait, ça légitime la demande des politiques après qui vont dire « ben voyez, là j'ai 5000 personnes à FIV, enfin, qui ont signé une pétition pour qu'il y ait plus de keufs à FIV ». Du coup, moi, de ma place de politique, j'écoute le peuple. Et donc, je donne plus de moyens à la police. Et donc, on met plus de policiers. Enfin, c'est comme ça que ça roule. Et c'est pour ça que c'est... Du coup, en fait, non seulement la Voix du Nord, elle biaise l'opinion, comme disait la maman de Selom à l'instant, mais en plus, elle l'influence. Elle fait pas que la biaiser. Elle fait comprendre aux gens que, bah oui, il y a besoin de plus de policiers. C'est ça aussi que fait la presse quotidienne régionale.
Mais oui, mais c'est quelque chose d'anglais. Je veux dire, si on ouvrait plus largement à genre, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Où est-ce qu'on pourrait mettre de l'argent ailleurs? Je suis pas sûre que la réponse immédiate serait des flics, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est juste que... Mais après, c'est juste des histoires de budget et de... Voilà, mais de comment sont aiguillés les financements. Enfin, je voulais juste dire que ça en dit long sur à quel point on en est à aussi... pas rabaisser des citoyens, mais juste se dire bah, en fait la seule chose dont vous avez besoin et ce qu'on peut vous apporter, c'est de la sécurité. Et c'est juste ça, c'est qu'il n'y a plus de débat, il y a plus de... on parle plus de politique au sens large, en fait. On est juste focalisé sur des questions de... Oui, des rodéos, ça fait chier.
Mais qui décide mais,
genre... Oui, mais c'est non, juste c'est genre, est-ce qu'on pourrait pas parler d'autre chose et de l'éducation, de la culture, de la bouffe, enfin de ce que tu veux, en fait, mais juste d'autre chose, quoi. Ou de ce qui se passe déjà dans le quartier, mais qui pourrait nourrir autrement, en fait, que de se focaliser sur les petites bêtes noires du quartier, des choses qui vont pas ou quoi. Enfin, j'allais dans ton sens.
Bah, carrément, non, mais moi aussi, hein, mais du coup, il y a même à se demander pourquoi dans La Voix du Nord, on peut pas lire que, en fait, ces jeunes-là qui squattent dans la rue Pierre-le-Grand, bah, quand t'es une meuf et que tu rentres toute seule le soir, en fait, c'est des personnes qui vont veiller à ce que, que tu rentres tranquillement chez toi. Enfin, moi, je me suis jamais fait emmerder rue Pierre-le-Grand, je passe quotidiennement. Et plus d'une fois, il y a des personnes qui m'ont dit « Ouais, bah fais attention ». Il y a même une fois où il y a quelqu'un qui est intervenu en disant à un mec d'arrêter de me suivre et d'arrêter de me faire chier, quoi. Du coup, ces mecs-là, ces jeunes, puisque ouais, ces jeunes qui sont désignés comme jeunes, si on peut être jeune jusqu'à 40 ans, mais du coup, en fait, ils font partie de la vie de quartier, ils participent à ce que la vie dans le quartier, elle se passe bien, et ça, c'est quelque chose qu'on lira jamais, quoi, aussi, pour changer le regard.
Juste pour enchaîner là-dessus, sur effectivement les thématiques qui sont choisies, nous, à l'APU, en fait, on entend beaucoup logement, emploi, discrimination. En fait, c'est les gens, ils sont vénères sur ces choses-là, en fait, dans les quartiers populaires. Logement, emploi, discrimination. Et après, il faut pas dire non, ça n'existe pas, parce qu'effectivement, dans le quartier, il y a eu des histoires que tout le monde connaît, en fait, et des histoires de violence qui sont un peu hard, en fait. Et donc, quand on arrive, il faut pas dire on est anti-flic, on est machin, bah, parce que, en fait, des problèmes de sécurité, il y en a, en fait. Il y a des gens qui font n'importe quoi à FIV aussi. Et donc, il faut savoir le prendre en compte, mais c'est vrai qu'il y a des demandes, depuis que le quartier est en train de se transformer, il y a des demandes de propreté
qui ont voilà, il y a des gens qui se mobilisent sur la question de la propreté en fait. Et pour eux, le problème dans le quartier aujourd'hui, c'est la propreté. Et après, c'est la sécurité. Voilà, il y a juste des gens qui se mobilisent sur propreté et sécurité. Et nous, ce qu'on entend à la PU, c'est logement, emploi et discrimination. Voilà, faut à un moment donné faire la part des choses et dire aussi, quel est l'important ? Où est-ce qu'on doit se mobiliser à FIV aujourd'hui, quoi ? Qu'est-ce qui doit être fait vraiment au fond des choses ? Et est-ce que si on se mobilise sur l'emploi, sur le logement et sur les discriminations, est-ce que de fait on n'aura pas peut-être des améliorations sur d'autres choses du quartier ? Donc on a l'impression que ça se mobilise fort sur les conséquences et en fait les causes on en a rien à foutre en fait, quoi. Genre les gens ils squattent dans la galère en fait, ils ont pas de boulot, ils ont des logements pourris, ils peuvent pas squatter chez eux, les jeunes ils sont dans des appartes où t'as 3 pièces et en fait t'es à 3 par chambre. En fait, donc juste, il n'y a pas la possibilité de squatter chez toi, c'est pas possible, donc tu descends dehors, en fait.
Bah,
et donc c'est tout à fait ça. Et donc, en même temps, ces questions-là, il ne faut pas les évacuer d'un revers de main, parce qu'il ne faut pas dire que ça n'existe pas, parce qu'il y a des gens qui se les prennent dans la gueule. Mais en même temps, il faut dire si ces questions-là, elles existent, c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont en amont qui sont les plus importantes, en fait. Et voilà, c'est une position qui est un peu difficile, mais qu'il faut tenir. Il faut pouvoir tenir face au discours on a besoin de plus de keufs, il y en a marre des crades, voilà, les crades c'est qui ? C'est les populos, et après on sait là où ça va, c'est les populos, c'est les arabes, machin. On l'entend tout le temps ça en fait, à fil. Et donc au bout d'un moment, il faut pouvoir désamorcer ces discours, quoi.
Pour rebondir sur ce que dit Tonio, il y a des choses aussi que la Voix du Nord, les autorités municipales disent pas. Par exemple, des baisses de thunes chez les centres sociaux. Du coup, il y a de moins en moins de jeunes qui peuvent être accueillis dans les centres sociaux. Il y a des espaces verts ou des espaces comme les City Stades qui sont super importants, qui sont soit verrouillés, soit qui disparaissent. Par exemple, le projet de Fifkai, moi j'habitais au Monterre avant, j'habite plus là. Le projet de Fifkai, il y avait un City Stade, il y avait des dizaines de jeunes qui allaient jouer, qui allaient jouer au foot ou au basket dans le City Stade. Et du coup, la maire Aubry, elle nous dit ouais, vous inquiétez pas, on va conserver le City Stade pendant les travaux de Fifkai. Et en fait, non, le City Stade, il est giclé. Du coup, il y a les quelques trucs qu'il y a pour les jeunes en termes d'emploi, en termes de. Je sais pas, de sociabilisation, ils se font gicler. Les pôles d'emploi, ils ont fusionné. Le pôle d'emploi d'LM et le pôle d'emploi de filles, ils ont fusionné. Donc, enfin, ce genre de choses. C'est des politiques, c'est des choix politiques. C'est comme la rénovation urbaine, on laisse pourrir des quartiers. Et au final, après, on dit, vous voyez, c'est pauvre, pardon. C'est un lapsus qu'a fait Martine Aubry. Elle a confondu la pauvreté et la propreté pendant ses élections municipales. Du coup, moi, j'ai fait aussi de la fusse, excusez-moi. Voilà, c'est sale. Mais oui, forcément, si on ne fait pas venir les agents municipaux autant que dans le centre, forcément que c'est sale. Vous croyez que dans le centre, ça va être aussi propre s'il n'y a pas les équipes municipales qui passent tous les deux jours ou je ne sais pas combien de fois par jour. C'est des choix politiques. Ça, c'est un peu tout ce qui se passe dans les quartiers populaires. On laisse pourrir et après, on voit ce qui se passe, quoi.
Pour orienter éventuellement le débat par rapport à ce que soulevait à l'instant Tonio et ce que soulevait aussi la maman de Selom, par rapport à la question de ces personnes, en fait, c'est un témoignage qu'on a recueilli, le fait de ne pas avoir d'endroit où squatter. Donc, du coup, ça peut être vite pris un peu... Comme une forme de provocation des personnes qui disent « Bah ouais, mais nous, en fait, on n'a pas de travail, on n'a pas d'endroit où squatter, en fait, du coup, on se retrouve là, dans la rue. » Et ce qu'on disait par rapport à la question de la stigmatisation, par rapport au parcours scolaire, par rapport aux orientations, par rapport à ce qui est mis en avant dans la Voix du Nord comme étant une légitimation, bah oui, ici, on a des jeunes qui sont déscolarisés, ça devient des dealers, du coup, on envoie les keufs sur eux. En fait, il y a tout un questionnement à avoir sur ce qui fait qu'on en arrive là et à ce clivage-là.
Merci pour l'explication, c'est Lucie, là. Enfin, on a très bien compris que la Voix du Nord est le bras articulé des politiques locales. Surtout quand on sait que, en fait, les journalistes de la Voix du Nord sont obligés de dire, comme la police veut, si elle veut que la police lui donne des informations. Voilà, donc on retrouve souvent, en fait, dans les colonnes de la Voix du Nord, l'expression toute faite, force est restée à la loi. Voilà. C'est quand même assez incroyable. Quand on sait également que à l'ESJ, la direction ne veut pas que les journalistes, les étudiants journalistes soient trop critiques. Voilà, quand on sait, comme la plupart des étudiants journalistes vont travailler à la Voix du Nord. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme la direction de Sciences Po voudrait pas que les étudiants en sciences politiques fassent trop de politique. Fermez la parenthèse. Moi, je voudrais dire, je suis resté 20 ans à Paris, bon, c'était à Paris même, mais moi, j'ai jamais vu, comment dirais-je, ce climat qui ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait appeler peut-être en banlieue nord de Paris. Je veux dire, j'ai jamais eu de problème avec... les keufs à Paris, aucun keuf m'a fait des problèmes, mais ce que j'ai remarqué ici, c'est que les policiers ne savent pas faire des contrôles de police, j'en ai eu un au mois de décembre, et ils ne savent pas dire, par exemple, « Bonjour, police nationale, veuillez ceci, veuillez cela ». Moi, j'ai eu un contrôle des gens, des flics qui sont sortis d'un véhicule banalisé, en civil, ok, sans se présenter, sans brassard, sans présenter de matricule. Bon, c'était le soir, à Moulins, j'étais seul, ils étaient trois. La peur, elle était de quel côté, à votre avis ? Vous voyez ce que je veux dire ? On a l'impression qu'ils font exprès, c'est pour un peu susciter le délit de fuite ou des trucs comme ça. Ils sont toujours dans la provoque. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, moi, j'ai pas à leur demander qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez. C'est eux qui viennent me voir, donc ils ont, comment dirais-je, à me dire qu'est-ce qu'ils veulent. Ce d'autant plus que nous, citoyens contribuables, et même quand on est au chômage ou au RSA, on les paye avec nos impôts. 25% de nos impôts vont à la sécurité là, et comment dirais-je, à la justice. Hein. Et même, comment dirais-je, même quand on est au chômage, puisque quand on consomme, il y a de la TVA, et c'est 80% du budget national. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire, parce que... Il y a vraiment un climat délétère qui est organisé. On a l'impression que c'est programmé pour faire en sorte que, bon, oui, c'est une pro-gentrification. Moi qui suis entre deux âges, j'ai l'impression parfois, concernant gentrification, d'avoir vu ça dans les quartiers nord et est de Paris, qui étaient populaires il y a encore 25 ans, du côté de Canal de Lourdes, qui ne sont plus populaires.
Deux petits compléments pour apporter, qui n'ont pas forcément été écrits dans le papier ou très vite fait. Pour préciser la position de Martine Aubry, on s'est invité au vœu de la presse de Martine Aubry donc autour de mi-janvier, donc simplement quelques semaines après la mort de Selom et Matisse. Et elle déclare très fièrement que à FIV, on a fait du bon boulot, les trafics de drogue, on a fait du bon boulot. Mais évidemment, si on avait eu deux fois plus de policiers, on aurait été deux fois plus vite. Donc c'est pour dire à peu près le genre de questionnement qu'ils ont au niveau de la mairie. Et un autre petit complément aussi qui peut être intéressant, c'est qu'on a eu l'occasion de discuter avec le journaliste de La Voix du Nord, donc Dutoit, qui s'occupe des faits divers, le fait diversier de La Voix du Nord. Donc j'ai eu l'occasion de discuter avec lui lors d'une soirée où c'était voilà un autre contexte. Il savait que j'étais de la Brique, je savais qu'il était de La Voix du Nord. Et lui, il m'explique... Et lui m'explique, bon, on a parlé de plein d'autres choses, mais notamment sur cette affaire-là, il m'explique que lui, le jour du drame, il est prévenu en un quart d'heure parce qu'ils ont un réseau énorme, donc en un quart d'heure, il est sur le lieu, mais qu'il n'a pas le temps, donc il prend juste, il demande à deux, trois policiers qui sont là ce qui s'est passé, puis il doit pondre un article dans la foulée, et en gros, pour tous les événements qu'il traite, c'est la même chose. Lui, ça fait 20 ans, 15 ans qu'il fait staff. Il doit publier un article par jour, il doit bosser, il doit faire ça, donc il sait, il est conscient, il me l'a dit lui-même, il dit « ouais, je sais qu'on a fait de la merde », il dit « d'ailleurs, on s'est bien fait latter sur tous les réseaux sociaux ». Et ce qui est aussi intéressant, donc au-delà du fait qu'ils le vivent mal et machin, tout ça, mais cela dit, c'est son taf, c'est que quand finalement, quelques jours plus tard, ils en arrivent à publier l'autre version qui n'était pas celle des flics, un peu poussée au cul aussi par ce qui se passait sur les réseaux sociaux, et notamment le taf qui a fait le crime aussi, qui a publié un communiqué, c'est que eux, quand ils publient cette deuxième version des faits, où en fait il y avait vraiment un contrôle de police qui avait lieu sur place, c'est la préfecture qui appelle La Voix du Nord pour dire qu'ils sont pas contents. Donc voilà, ils se font aussi taper sur les doigts par la préfecture quand ils publient des trucs qui les arrangent pas. Et là, je lui dis, mais comment ça, la préfecture te tape sur les doigts? Comment ça se passe? Bah, il me dit très simplement, c'est la préfecture qui appelle mon chef. Et c'est notre chef qui vient nous dire pour dire, les gars, ça va pas, vous avez fait de la merde. La préfecture est pas contente. Voilà, pour éclairer un petit peu comment se déroule... la PQR dans le coin.
Et donc, quelle est la dépendance de La Voix du Nord?
Oui.
Et la Voix du Nord est aussi de la résistance française pour une presse libre et indépendante. Ordonnance du programme du Conseil national de la résistance.
Eh bien, ce qu'il faut savoir, je pense, c'est que la presse régionale, elle compte aussi des fois sur des infos des flics, machin truc. Donc ils essayent de gérer un peu leurs informateurs, tout ça, et dire ah oui, on peut pas trop fâcher la préfecture parce qu'ils nous rencardent de temps en temps. Quoi.
Voilà, c'est
important. Ok, nous on avait à peu près prévu de s'arrêter là. Après, s'il y a des réactions, des gens qui veulent revenir sur les sujets.
Une chose très importante.
On vous demande 20 secondes.
Il y a une chose très importante, c'est que du coup, la brique, elle chope ses infos aussi grâce à toutes les personnes qui la lisent et qui nous écrivent. Et du coup, si vous avez des infos, si vous avez des patrons à balancer, des keufs à balancer, des n'importe quoi à balancer, vous nous écrivez sur labrique@riseup.net.